Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Charcot-Marie-Tooth et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Vincent Tiffraud. Professeur Tiffraud, bonjour.
Bonjour.
Professeur Tiffraud, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier et chef du service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Zwinggedo au CHU de Lille. Et vous travaillez également pour le centre de référence des maladies neuromusculaires du CHU de Lille. Alors aujourd'hui, professeur Tiffraud, nous allons aborder la prise en charge des patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et ma première question concerne un symptôme fréquent, la douleur. Quels sont les grands principes de prise en charge de la douleur chez ces patients qui souffrent de la maladie de Charcot-Marie-Tooth ?
Déjà, il faut comprendre que la douleur dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth peut avoir plusieurs origines. Principalement lorsqu'il y a une atteinte sensitivo-motrice et une atteinte de la sensibilité, des fibres de la sensibilité, ces douleurs peuvent avoir une origine dite neuropathique. Ce sont les douleurs liées aux perturbations du système nerveux. Et dans ces douleurs neuropathiques, qui ressemblent à des fourmillements, à des brûlures, et qui peuvent s'accompagner ensuite de phénomènes musculaires, comme les crampes, dans ces douleurs neuropathiques, on va utiliser certaines stratégies, en particulier des médicaments. Et les médicaments qui sont efficaces dans ces douleurs neuropathiques sont plutôt des médicaments de la famille des antiépileptiques, qu'on n'utilise pas dans ce cas pour soigner une épilepsie, mais bien pour soigner les douleurs, qui ne sont pas efficaces tout de suite à l'introduction du médicament, mais qui nécessitent un peu de patience, parce qu'il faut augmenter progressivement les doses et avoir au moins quelques semaines de traitement avant d'avoir une véritable efficacité. Il y a d'autres médicaments, comme les antidépresseurs tricycliques, par exemple, là aussi, qui ne sont pas utilisés pour la dépression dans ce cas-là, mais vraiment pour les douleurs neuropathiques, qui ont un peu plus d'effets secondaires. Ça, c'est pour les douleurs neuropathiques. Mais les patients peuvent présenter également d'autres douleurs qui sont d'origine beaucoup plus mécanique, car il y a des déformations orthopédiques possibles, et puis, je le disais aussi, des contractures ou des crampes musculaires. Et dans ces cas-là, on va faire appel à d'autres stratégies, parfois des médicaments plus classiques, hein, des médicaments antidouleurs de palier 1 ou palier 2, mais la rééducation peut aussi avoir un effet bénéfique, en particulier sur les symptômes musculaires.
Et si on se place maintenant au début de la maladie, lors de l'apparition des premiers symptômes, quelles recommandations proposer aux patients atteints d'une forme débutante de la maladie ?
Alors, la première recommandation, c'est de garder une activité, et de garder une activité physique. Effectivement, au début de la maladie, quand les symptômes sont encore minimes, alors ça peut concerner les enfants comme les adultes, un enjeu important dans cette maladie qui est lentement évolutive, c'est de prévenir d'éventuelles déformations et de prévenir la dégradation motrice et la dégradation fonctionnelle. Donc on est vraiment dans l'entretien des capacités, l'entretien également de l'état orthopédique et la prévention de l'aggravation. Il faut lutter par la rééducation quotidienne contre le risque de dégradation. Alors, je disais que l'activité physique ou le maintien d'une activité physique va être essentiel dans ces formes débutantes, parce qu'on sait maintenant que maintenir une activité musculaire régulière va être un élément vraiment positif pour le maintien des capacités et surtout n'entraîne pas de risque particulier au niveau neurologique ou neuromusculaire. C'est-à-dire qu'on a très peu de risques de lésions ou d'aggravation ou de douleur dans la mesure où cette activité physique ou ces exercices vont être adaptés à la pathologie. Alors, il faut se représenter dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est une maladie du nerf et pour la motricité du nerf moteur, il faut se représenter que dans cette maladie, qui n'est pas une maladie du muscle à la base, hein, qui est une maladie du nerf, il va y avoir une raréfaction des nerfs moteurs et des unités motrices. qui commandent les cellules musculaires. Et ceci est important à concevoir parce que le phénomène physiologique qui permet de garder une activité motrice, c'est un phénomène de compensation qui met en jeu un recrutement des fibres qui sont préservées, mais qui du coup vont être beaucoup plus sollicitées puisqu'elles sont plus rares. Et donc, ce phénomène d'activité un peu en sur-régime pour ces activités motrices qui sont préservées va entraîner un risque de fatigabilité importante. Et c'est dans cette optique qu'il va être important de gérer les efforts pour ne pas dépasser un seuil de fatigue ou de fatigabilité musculaire qui pourrait entraîner également des crampes et des douleurs. C'est pour ça qu'au début, on est vigilant à l'intensité et à la durée des efforts qui vont être proposés. Grosso modo, il y aurait deux stratégies. Hein. Une stratégie qui consiste à faire un effort plutôt léger et assez continu, qui peut durer plusieurs minutes. Par exemple, de l'entretien physique sur un vélo d'appartement, un cycloergomètre ou un tapis roulant, mais toujours à la même intensité et une intensité qui est modérée, bien supportée. Mais une autre stratégie, ça peut être aussi d'alterner des moments où on fait travailler les muscles un peu plus intensément, hein, avec des montées en puissance, mais de courte durée, toujours, pour ne pas dépasser le seuil de fatigue ou de douleur, et surtout en respectant des moments de récupération suffisamment longs, pour que la personne puisse récupérer, qu'il y ait suffisamment de temps de repos pour ne pas déclencher ces phénomènes de fatigue. On appelle ça, un peu comme dans les rééducations des sportifs, l'intervalle training, où on alterne en fait des séquences avec des efforts plus intenses et des séquences de repos, de récupération.
Et pour les formes plus avancées, professeur Tiffraud, que proposer lorsque l'atteinte est plus marquée ?
Alors, quand la maladie a évolué, d'une part, l'atteinte musculaire va être beaucoup plus prononcée. Et une des conséquences de la maladie, avec la raréfaction des fibres nerveuses, c'est l'atrophie des muscles. Et ces muscles qui sont très atrophiés, et de façon prédominante au niveau des extrémités, au niveau des mains et des pieds, ces muscles très atrophiés ont beaucoup moins de capacité à fonctionner, on peut beaucoup moins facilement les travailler qu'au début de la maladie. Donc, on va moins insister sur le renforcement et l'activité musculaire des muscles les plus atteints. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans les phases avancées de la maladie, on voit aussi s'installer les déformations orthopédiques. C'est là que, par des phénomènes de rétraction des muscles et des tendons, on voit apparaître des déformations des articulations. Les orteils vont être en griffe, le pied devient creux, il se déforme dans l'axe, le talon aussi va se déformer en varus. On a souvent un pied creux, varus, et ceci va entraîner aussi des modifications au niveau des appuis qui peuvent entraîner des douleurs et des difficultés de chaussage. Alors quand on est dans ces situations-là, l'enjeu au niveau des articulations les plus touchées, c'est bien sûr d'essayer de préserver au mieux ce qui reste à préserver, d'essayer d'assouplir au mieux ce qui est le plus raide, le plus rétracté, et ça va être un travail de rééducation beaucoup plus orthopédique, de l'entretien avec des mobilisations très fréquentes de toutes les articulations, surtout les petites articulations, les orteils, le milieu du pied, la voûte plantaire, la cheville, le tendon d'Achille, etc. Donc ça, c'est un travail que le patient va faire avec son kinésithérapeute, mais qu'il peut aussi apprendre à faire lui-même, car c'est un entretien qui est vraiment quotidien. Malgré tout, si les extrémités peuvent être touchées et sévèrement touchées, la maladie va tout de même un peu plus préserver les muscles plus proximaux, les muscles du tronc, du dos, les muscles abdominaux, et puis les muscles proximaux au niveau des hanches, au niveau des épaules. Et le potentiel d'amélioration, de renforcement, d'entretien, il va être préservé quand même sur les muscles qui sont moins atteints. Et donc, on pourra quand même faire un travail d'activité motrice, de renforcement musculaire sur ces muscles qui sont moins atrophiés, mais toujours en respectant les conditions que j'ai données avant, c'est-à-dire rester en dessous d'un seuil de fatigue ou de crampes musculaires.
Et dans cette pathologie, quelle est la place de la kinésithérapie et de l'ergothérapie dans la prise en charge ?
Alors, les thérapeutes de rééducation qui interviennent dans cette maladie, ils ont un rôle majeur, à la fois pour la prise en charge. Alors, pour le kinésithérapeute, qui va avoir un travail à la fois analytique et global sur les articulations, les tendons, mais aussi l'activité musculaire. Le kiné, il a plusieurs rôles pour moi. Il a un rôle thérapeutique important parce que c'est lui qui va faire ce travail de mobilisation, d'entretien, de la souplesse. Il va avoir aussi un rôle de vigilance. Je m'appuie souvent sur les bilans du kinésithérapeute de proximité parce que c'est lui qui connaît le mieux le patient. Il le voit régulièrement, puis il le voit évoluer aussi. Donc, il peut percevoir s'il y a une petite dégradation sur certains muscles, certains tendons. Il peut voir apparaître éventuellement une déformation ou s'aggraver une déformation. Donc, il a un rôle de vigilance, un rôle de prévention aussi. Et c'est lui qui va guider le patient dans sa rééducation. Alors, je vous ai parlé de la rééducation musculaire, qui peut être une rééducation un peu spécifique sur certaines articulations, avec des exercices un peu particuliers, en particulier sur ce qui est des étirements, mais aussi beaucoup de conseils sur l'entretien physique. Et c'est pas forcément le kiné qui sera toujours avec le patient, mais il va lui donner des conseils sur comment mener son activité physique, quel type d'exercice il peut faire tout seul. En pratique, le kiné peut guider le patient dans une forme d'auto-rééducation. Et la maladie de Charcot-Marie-Tooth est vraiment une maladie chronique qui se prête beaucoup à l'auto-rééducation parce que pour plusieurs raisons, il peut y avoir une certaine lassitude à faire de la kinésithérapie de façon un peu chronique, prolonger ces exercices qui sont un peu toujours les mêmes, qu'il faut essayer de varier. Ben, il peut y avoir une lassitude à faire de la kiné de façon très régulière comme ça. Pourquoi pas alterner des périodes où la personne va faire elle-même ses exercices et puis quand même des périodes où elle va revoir son thérapeute qui pourra de nouveau la guider et puis aussi refaire des bilans et voir s'il y a des choses qui ont évolué. Donc le kinésithérapeute va avoir ce rôle-là. Il a un rôle aussi essentiel dans la rééducation fonctionnelle. La rééducation peut être fonctionnelle quand elle vise les capacités et essentiellement les capacités de marche. Et dans la maladie, c'est aussi les capacités d'équilibre. Effectivement, dans cette maladie, les muscles sont touchés, les articulations peuvent être déformées, donc ça peut être une source de perturbation de l'équilibre. Mais la sensibilité au niveau des membres, et en particulier des pieds, peut aussi être touchée, ce qui entraîne des difficultés de perception de l'équilibre et justifie une rééducation pour cela. Et donc, on propose aussi à nos patients qui sont en difficulté pour la marche, par exemple, sur un terrain qui est un peu accidenté ou en pente, ou alors lorsqu'ils marchent dans l'obscurité, ils n'ont pas les repères visuels pour se rattraper, et bien cette rééducation peut cibler vraiment l'équilibre. Ça va être faire des franchissements d'obstacles, travailler l'équilibre sur une jambe, travailler des exercices de marche un peu difficiles, marcher sur une ligne, marcher sur des supports différents, des supports plus ou moins stables, de la mousse ou alors des plateaux, des petites trampolines. Voilà, tout ce qui met en jeu les capacités d'équilibre va être utilisée par le kinésithérapeute pour travailler. Et puis, il y a l'entretien physique global dont j'ai déjà parlé. Alors, pour l'ergothérapeute, les enjeux peuvent être un peu différents. L'ergothérapeute, c'est vraiment le professionnel qui est ciblé sur l'autonomie au quotidien. Hein, l'objectif de l'ergothérapeute, c'est que la personne conserve ou retrouve sa fonctionnalité dans une autonomie qui lui permet de fonctionner si possible sans l'aide d'une autre personne. Alors ça peut paraître pour une maladie qui touche beaucoup les pieds quelque chose qui n'est pas forcément essentiel. Or la maladie, si elle touche les pieds et la marche, elle touche aussi très souvent les mains. Et les muscles qui sont touchés au niveau des mains sont principalement les muscles, les petits muscles intrinsèques, on les appelle comme ça, parce qu'ils sont situés vraiment dans la main, au niveau des articulations, entre les doigts et la main, par exemple. Ces muscles sont essentiels pour certaines fonctions d'utilisation de la main, notamment pour l'appréhension, c'est-à-dire saisir des objets, contrôler la force pour serrer un objet, avoir des mouvements précis, des mouvements fins. Et la main a énormément de fonctions de préhension différentes. On utilise énormément le pouce dans nos activités manuelles pour saisir un stylo, par exemple, ou défaire un bouton d'une chemise, ouvrir une fermeture éclair, faire ses lacets. Or, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les muscles de la main sont touchés, et en particulier les petits muscles à la base du pouce. On parle des muscles de l'éminence ténard. Et lorsque ces muscles sont touchés, l'utilisation du pouce et la stabilité du pouce est beaucoup plus difficile. Et c'est dans les atteintes les plus sévères au niveau de la main que les personnes vont être beaucoup plus handicapées pour l'utilisation de la main. C'est là que l'ergothérapeute peut aussi donner des outils, des conseils, des recommandations pour utiliser des aides techniques ou des conseils pour aménager la façon de saisir les objets, trouver des stratégies, des stratégies d'adaptation, par exemple grossir le calibre d'un stylo permet d'être plus efficace pour la saisie et le maintien dans la main, pour une main qui est atrophiée, par exemple. Mais il peut travailler aussi toutes les fonctions que la personne souhaite améliorer. Et ça peut être l'utilisation du téléphone portable, du clavier informatique, de la souris, avec à la fois un travail de rééducation pour améliorer les performances, mais aussi de réadaptation pour proposer des petits outils adaptés à une meilleure fonctionnalité.
C'est très clair. Et pour conclure, professeur Tiffraud, quelle est l'importance des centres experts dans la prise en charge et le suivi des patients?
Alors, la particularité des centres de référence ou des centres de compétences, c'est que comme ces centres sont dédiés à ces maladies rares, forcément les professionnels qui y travaillent vont avoir à soigner beaucoup plus de patients qu'un thérapeute de proximité. Ce qui permet de développer une forme d'expertise dans la prise en charge. Effectivement, quand on voit beaucoup de patients, on développe une expertise, on voit beaucoup plus souvent les mêmes problématiques dont je viens de parler, ces déformations au niveau des pieds, ces difficultés au niveau des mains. Cette expertise, elle peut être utile dans le suivi pour les patients. Et elle peut être surtout très utile dans le relais, le transfert de compétences qu'on peut exercer auprès des professionnels de proximité. En fait, un des intérêts des centres de compétences est de pouvoir être présent en appui pour les thérapeutes, parce que bien sûr, tous les kinésithérapeutes, tous les médecins de proximité ne peuvent pas être experts de toutes les maladies rares. Ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable non plus. Mais par contre, quand on est kinésithérapeute dans son cabinet et qu'on n'a pas vu souvent une maladie de Charcot-Marie-Tooth, le kinésithérapeute peut s'appuyer sur le centre de référence. Il a éventuellement un collègue kinésithérapeute du centre de référence qui peut solliciter pour lui demander conseil, pour lui demander quelles sont les bonnes stratégies en fonction de ce qu'il a observé, quel type d'exercice, quelle intensité, quelle fréquence, etc. Et pareil pour l'ergothérapeute, s'il y a un ergothérapeute de proximité. Donc le centre de référence va avoir ce rôle d'expertise en appui pour les thérapeutes de proximité. Et dans le cas de la prise en charge, les professionnels du centre de référence peuvent donner des conseils, des formes de guides de rééducation. Alors, par exemple, moi, j'utilise de plus en plus une fiche ou un dossier d'auto-rééducation qui a été développé à la PHP à Paris en partenariat avec l'association CMT France. Ce document est très bien conçu, il est dédié à la maladie de Charcot-Marie-Tooth, avec beaucoup d'exemples d'exercices, à la fois pour les pieds, pour les mains et tout le corps, en fonction de la sévérité, avec beaucoup de détails, beaucoup d'images. Et ce document peut être envoyé au thérapeute, il peut même être utilisé directement par les patients. Ça nécessite une certaine guidance, hein, il faut quand même expliquer au patient quels types d'exercices sont bien pour lui plutôt qu'un autre. Et ça permet de responsabiliser le patient sur sa propre prise en charge. Souvent, les patients sont eux-mêmes assez experts, hein, de leur pathologie vis-à-vis des professionnels qui les prennent en charge. Ça permet de moduler l'échange entre les thérapeutes et les patients. Ce que je voulais vous dire, c'est que le centre de référence a son expertise, il appuie la prise en charge de proximité, et puis c'est aussi une structure où le patient qui a une maladie rare sait qu'il va faire appel, il va être vu par des professionnels qui ont vu d'autres patients. Et pour moi, ce qui est utile, c'est ayant des connaissances un peu plus approfondies dans ces maladies rares, mais ayant aussi un peu d'expérience, en ayant vu d'autres patients, je peux resituer les problématiques des patients par rapport à d'autres que j'aurais déjà vus. Et m'appuyer sur ça pour expliquer ce qui me paraît important, ce que j'ai déjà pu rencontrer ailleurs, qui est bien supporté, utile, pas utile, etc.
Eh bien, merci mille fois, professeur Tiffraud, de nous avoir éclairé sur la prise en charge de cette maladie de Charcot-Marie-Tooth. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raresalecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rares à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.